Chapitre 4. Madame Graslin à Montaignac. En quelques instants, le bourg de Montaignac et sa colline, où les constructions neuves frappaient les regards, apparurent dorés par le soleil couchant, et empreints de la poésie due au contraste de cette jolie nature, jetée là comme une oasis au désert. Les yeux de Madame Graslin s'emplirent de larmes. Le curé lui montra une large trace blanche qui formait comme une balafre à la montagne. « Voilà ce que mes paroissiens ont fait pour témoigner leur reconnaissance à leur châtelaine, » dit-il en indiquant ce chemin. « Nous pourrons monter en voiture au château. Cette rampe s'est achevée sans qu'il vous en coûte un sou. Nous la planterons dans 2 mois. Monseigneur peut deviner ce qu'il a fallu de peine, de soins et de dévouement pour opérer un pareil changement. » « Ils ont fait cela, dit l'évêque, sans vouloir rien accepter, monseigneur. Les plus pauvres y ont mis la main, en sachant qu'il leur venait une mère. » Au pied de la montagne, les voyageurs aperçurent tous les habitants réunis qui firent partir des boîtes, déchargèrent quelques fusils. Puis les 2 plus jolies filles, vêtues de blanc, offrirent à Madame Graslin des bouquets et des fruits. Être reçue ainsi dans ce village, s'écria-t-elle en serrant la main de M. Bonnet, comme si elle allait tomber dans un précipice. La foule accompagna la voiture jusqu'à la grille d'honneur. De là, Madame Graslin put voir son château, dont jusqu'alors elle n'avait aperçu que les masses. À cet aspect, elle fut comme épouvantée de la magnificence de sa demeure. La pierre est rare dans le pays. Le granit qui se trouve dans les montagnes est extrêmement difficile à tailler. L'architecte, chargé par Graslin de rétablir le château, avait donc fait de la brique l'élément principal de cette vaste construction, ce qui la rendit d'autant moins coûteuse que la forêt de Montaignac avait pu fournir, et la terre et le bois nécessaires à la fabrication. La charpente et la pierre de toutes les bâtisses étaient également sorties de cette forêt. Sans ces économies, Graslin se serait ruiné. La majeure partie des dépenses avait consisté en transport, en exploitations et en salaires. Ainsi, l'argent était resté dans le bourg et l'avait vivifié. Au premier coup d'œil et de loin, le château présente une énorme masse rouge, rayée de filets noirs produits par les joints et bordée de lignes grises, car les fenêtres, les portes, les entablements, les angles et les cordons de pierre à chaque étage sont de granit taillé en pointe de diamant. La cour, qui dessine un ovale incliné comme celle du château de Versailles, est entourée de murs en briques, divisés par tableaux encadrés de bossages en granit. Au bas de ces murs règnent des massifs remarquables par le choix des arbustes, tous de verts différents. 2 grilles magnifiques, en face l'une de l'autre, mènent d'un côté à une terrasse qui a vue sur Montaignac, de l'autre aux communs et à une ferme. La grande grille d'honneur à laquelle aboutit la route qui venait d'être achevée est flanquée de 2 jolis pavillons dans le goût du XVIe siècle. La façade sur la cour, composée de 3 pavillons, l'un au milieu et séparé des 2 autres par 2 corps de logis, est exposée au levant. La façade sur les jardins, absolument pareille, est à l'exposition du couchant. Les pavillons n'ont qu'une fenêtre sur la façade, et chaque corps de logis en a 3. Au bas de ces murs règnent des massifs remarquables par le choix des arbustes, tous de verts différents. 2 grilles magnifiques, en face l'une de l'autre, mènent d'un côté à une terrasse qui a vue sur Montaignac, de l'autre aux communs et à une ferme. La grande grille d'honneur à laquelle aboutit la route qui venait d'être achevée est flanquée de 2 jolis pavillons dans le goût du XVIe siècle. La façade sur la cour, composée de 3 pavillons, l'un au milieu et séparé des 2 autres par 2 corps de logis, est exposé au levant. La façade sur les jardins, absolument pareille, est à l'exposition du couchant. Les pavillons n'ont qu'une fenêtre sur la façade, et chaque corps de logis en a 3. Le pavillon du milieu, disposé en campanile, et dont les angles sont vermiculés, se fait remarquer par l'élégance de quelques sculptures sobrement distribuées. L'art est timide en province, et quoique dès 1829 l'ornementation eût fait des progrès à la voix des écrivains, les propriétaires avaient alors peur de dépenses, que le manque de concurrence et d'ouvriers habiles rendait assez formidable. Le pavillon de chaque extrémité, qui a trois fenêtres de profondeur, est couronné par des toits très élevés, ornés de balustrades en granit, et dans chaque pan pyramidal du toit, coupé à vive arête par une plateforme élégante bordée de plomb et d'une galerie en fonte, s'élève une fenêtre élégamment sculptée. À chaque étage, les consoles de la porte et des fenêtres se recommandent d'ailleurs d'après des sculptures, copiées d'après celles des maisons de Gênes. Le pavillon dont les trois fenêtres sont au midi voit sur Montaignac. L'autre, celui du nord, regarde la forêt. De la façade du jardin, l'œil embrasse la partie de Montaignac où se trouvent les tâcherons, et plonge sur la route qui conduit au chef-lieu de l'arrondissement. La façade sur la cour jouit du coup d'œil que présentent les immenses plaines, cerclées par les montagnes de la Corrèze, du côté de Montaignac, mais qui finissent par la ligne perdue des horizons planes. Les corps de logis n'ont au-dessus du rez-de-chaussée qu'un étage, terminé par des toits percés de mansardes dans le vieux style. Mais les deux pavillons de chaque bout sont élevés de deux étages. Celui du milieu est coiffé d'un dôme écrasé, semblable à des pavillons dits de l'horloge, aux Tuileries ou au Louvre, et dans lequel se trouve une seule pièce formant belvédère et ornée d'une horloge. Par économie, toutes les toitures avaient été faites en tuiles à gouttières, poids énorme que portent facilement les charpentes prises dans la forêt. Avant de mourir, Grasselin avait projeté la route qui venait d'être achevée par reconnaissance, car cette entreprise, que Grasselin appelait sa folie, avait jeté 500 000 francs dans la commune. Aussi Montaignac s'était-il considérablement agrandi. Derrière les communs, sur le penchant de la colline qui, vers le nord, s'adoucit en finissant dans la plaine, Grasselin avait commencé les bâtiments d'une ferme immense, qui accusait l'intention de tirer parti des terres incultes de la plaine. 6 garçons jardiniers, logés dans les communs et aux ordres d'un concierge jardinier en chef, continuaient en ce moment les plantations et achevaient les travaux que M. Bonnet avait jugés indispensables. Le rez-de-chaussée de ce château, destiné tout entier à la réception, avait été meublé avec somptuosité. Le premier étage se trouvait assez nu, la mort de M. Grasselin ayant fait suspendre les envois du mobilier. « Ah, monseigneur, dit Mme Grasselin à l'évêque, après avoir fait le tour du château, moi qui comptais habiter une chaumière, le pauvre M. Grasselin a fait des folies. Et vous, dit l'évêque, vous allez faire des actes de charité ? Ajouta-t-il après une pause, en remarquant le frisson que ce mot causait à Mme Grasselin. Elle prit le bras de sa mère, qui tenait Francis par la main, et alla seule jusqu'à la longue terrasse au bas de laquelle est située l'église, le presbytère, et d'où les maisons du bourg se voient par étage. Le curé s'empara de M. Dutheil pour lui montrer les différentes faces de ce paysage. Mais les deux prêtres aperçurent bientôt, à l'autre bout de la terrasse, Véronique et sa mère, immobiles comme des statues. La vieille avait son mouchoir à la main et s'essuyait les yeux. La fille avait les mains étendues au-dessus de la balustrade et semblait indiquer l'église au-dessous. « Qu'avez-vous, madame ? » dit le curé à la vieille Sauvia. « Rien, » répondit Madame Grasselin, qui se retourna et fit quelques pas au-devant des deux prêtres. « Je ne savais pas que le cimetière dût être sous mes yeux. Vous pouvez le faire mettre ailleurs, la loi est pour vous. »« La loi ? » dit-elle en laissant échapper ce mot comme un cri. Là, l'évêque regarda encore Véronique, fatigué du regard noir par lequel ce prêtre perçait le voile de chair qui lui couvrait l'âme, et y surprenait le secret caché dans une des fosses de ce cimetière. Elle lui cria « Eh bien oui !» L'évêque se posa la main sur les yeux et resta pensif, accablé pendant quelques instants. « Soutenez ma fille !» cria la vieille. « Elle pâlit. L'air est vif, il m'a saisi, » dit Madame Grasselin, en tombant évanouie dans les bras des deux ecclésiastiques qui la portèrent dans une des chambres du château. Quand elle reprit connaissance, elle vit l'évêque et le curé priant Dieu pour elle, tous deux à genoux. « Puisse l'ange qui vous a visité ne plus vous quitter, » lui dit l'évêque en la bénissant. « Adieu, ma fille. » Ces mots firent fondre en larmes Madame Grasselin. « Elle est donc sauvée ? » s'écria la Sauvia. Dans ce monde et dans l'autre, ajouta l'évêque en se retournant avant de quitter la chambre. Cette chambre où la Sovia avait fait porter sa fille est située au premier étage du pavillon latéral, dont les fenêtres regardent l'église, le cimetière et le côté méridional de Montaignac. Madame Grasselin voulut y demeurer et s'y logea tant bien que mal, avec Aline et le petit Francis. Naturellement, la Sovia resta près de sa fille. Quelques jours furent nécessaires à Madame Grasselin pour se remettre des violentes émotions qu'il avait saisies à son arrivée. Sa mère la força d'ailleurs de garder le lit pendant toutes les matinées. Le soir, Véronique s'asseyait sur le banc de la terrasse, d'où ses yeux plongeaient sur l'église, sur le presbytère et le cimetière. Malgré la sourde opposition qui mit la vieille Sovia, Madame Grasselin allait donc contracter une habitude de maniaque, en s'asseyant ainsi à la même place, et s'y abandonnant à une sombre mélancolie. « Madame se meurt, » dit Aline à la vieille Sovia. Averti par ces deux femmes, le curé, qui ne voulait pas s'imposer, vint alors voir assidûment Madame Grasselin, dès qu'on lui eut indiqué chez elle une maladie de l'âme. Ce vrai pasteur eut soin de faire ses visites à l'heure où Véronique se posait à l'angle de la terrasse avec son fils, en deuil, tous deux. Le mois d'octobre commençait, la nature devenait sombre et triste. Monsieur Bonnet, qui dès l'arrivée de Véronique à Montaignac avait reconnu chez elle quelques grandes plaies intérieures, jugea prudent d'attendre la confiance entière de cette femme qui devait devenir sa pénitente. Un soir, Madame Grasselin regarda le curé d'un œil presque éteint par la fatale indécision observée chez les gens qui caressent l'idée de la mort. Dès cet instant, Monsieur Bonnet n'hésita plus et se mit en devoir d'arrêter les progrès de cette cruelle maladie morale. Il y eut d'abord entre Véronique et le prêtre un combat de paroles vides, sous lesquelles ils se cachèrent leurs véritables pensées. Malgré le froid, Véronique était en ce moment sur un banc de granit et tenait Francis assis sur elle. La Sovia était debout, appuyée contre la balustrade en brique, et cachait à dessein la vue du cimetière. Aline attendait que sa maîtresse lui rendît l'enfant. « Je croyais, madame, dit le curé qui venait déjà pour la septième fois, que vous n'aviez que de la mélancolie. Mais je le vois, lui dit-il à l'oreille. C'est du désespoir. Ce sentiment n'est ni chrétien ni catholique. Et, répondit-elle en jetant au ciel un regard perçant, et laissant errer un sourire amer sur ses lèvres, quel sentiment l'Église laisse-t-elle aux damnés, si ce n'est le désespoir ? En entendant ce mot, le saint homme aperçut dans cette âme d'immenses étendues ravagées. Ah, vous faites de cette colline votre enfer, quand elle devrait être le calvaire d'où vous vous élancerez dans le ciel. Je n'ai plus assez d'orgueil pour me mettre sur un pareil piédestal, répondit-elle d'un ton qui révélait le profond mépris qu'elle avait pour elle-même. Là, le prêtre, par une de ces inspirations qui sont si naturelles et si abondantes chez ces belles âmes vierges, l'homme de Dieu prit l'enfant dans ses bras, le baisa au front et dit « Pauvre petit !» d'une voix paternelle, en le rendant lui-même à la femme de chambre qui l'emporta. La Sovia regarda sa fille et vit combien le mot de Monsieur Bonnet était efficace. Ce mot avait attiré des pleurs dans les yeux secs de Véronique. La vieille Auvergnate fit un signe au prêtre et disparut. « Promenez-vous, » dit Monsieur Bonnet à Véronique, en l'emmenant le long de cette terrasse à l'autre bout de laquelle se voyaient les tâcherons. « Vous m'appartenez, je dois compte à Dieu de votre âme malade. Laissez-moi me remettre de mon abattement, » lui dit-elle. « Votre abattement provient de méditations funestes, » reprit-il vivement. « Oui, » dit-elle avec la naïveté de la douleur, arrivée au point où l'on ne garde plus de ménagement. « Je le vois. » « Vous êtes tombé dans l'abîme de l'indifférence, » s'écria-t-il. « S'il est un degré de souffrance physique où la pudeur expire, il est aussi un degré de souffrance morale où l'énergie de l'âme disparaît, je le sais. Elle fut étonnée de trouver ces subtiles observations et cette pitié tendre chez M. Bonnet. Mais, comme on l'a vu déjà, l'exquise délicatesse qu'aucune passion n'avait altérée chez cet homme lui donnait, pour les douleurs de ses ouailles, le sens maternel de la femme. Ce mens divinior, cette tendresse apostolique, met le prêtre au-dessus des autres hommes et en fait un être divin. Madame Graslin n'avait pas encore assez pratiqué M. Bonnet pour avoir pu reconnaître cette beauté cachée dans l'âme comme une source, et d'où procède la grâce, la fraîcheur, la vraie vie. « Ah, monsieur !» s'écria-t-elle en se livrant à lui, par un geste et par un regard comme en ont tous les mourants. « Je vous entends, » reprit-il. « Que faire ? Que devenir ?» Ils marchèrent en silence, le long de la balustrade en allant vers la plaine. Ce moment solennel parut propice à ce porteur de bonnes nouvelles, à cet homme de l'Évangile. « Supposez-vous devant Dieu, » dit-il à voix basse et mystérieusement, « que lui diriez-vous » Madame Graslin resta frappée comme la foudre et frissonna légèrement. « Je lui dirai comme Jésus-Christ, « mon Père, vous m'avez abandonné et j'ai succombé, » répondit-elle simplement et d'un accent qui fit venir des larmes aux yeux du curé. « Oh, Madeleine, voilà le mot que j'attendais !» s'écria M. Bonnet qui ne pouvait s'empêcher de l'admirer. « Vous voyez, vous recourez à la justice de Dieu, vous l'invoquez. Écoutez-moi, madame. La religion est par anticipation la justice divine. L'Église s'est réservé le jugement de tous les procès de l'âme. La justice humaine est une faible image de la justice céleste. Elle n'en est qu'une pâle imitation appliquée aux besoins de la société. Que voulez-vous dire ? Vous n'êtes pas juge de votre propre cause. Vous relevez de Dieu, dit le prêtre. Vous n'avez ni le droit de vous condamner, ni de vous absoudre. Dieu, ma fille, est un grand réviseur de procès. Ah ! Fit-elle, il voit l'origine des choses. Là où nous n'avons vu que les choses elles-mêmes. Véronique s'arrêta, frappée de ses idées, toutes neuves pour elle. « À vous, reprit le courageux prêtre, à vous dont l'âme est si grande, je dois d'autres paroles que celles dues à mes humbles paroissiens. Vous pouvez, vous dont l'esprit est si cultivé, vous élever jusqu'au sens divin de la religion catholique. » Exprimé par des images et par des paroles, aux yeux des petits et des pauvres. Écoutez-moi bien, il s'agit ici de vous. Car malgré l'étendue du point de vue où je vais me placer pour un moment, ce sera bien votre cause. Le droit, inventé pour protéger les sociétés, est établi sur l'égalité. La société, qui n'est qu'un ensemble de faits, est basée sur l'inégalité. Il existe donc un désaccord entre le fait et le droit. La société doit-elle marcher réprimée ou favorisée par la loi ? En d'autres termes, la loi doit-elle s'opposer au mouvement intérieur social pour maintenir la société, ou doit-elle être faite d'après ce mouvement pour la conduire ? Depuis l'existence des sociétés, aucun législateur n'a osé prendre sur lui de décider cette question. Tous les législateurs se sont contentés d'analyser les faits, d'indiquer ceux blâmables ou criminels, et d'y attacher des punitions ou des récompenses. Telle est la loi humaine. Elle n'a ni les moyens de prévenir les fautes, ni les moyens d'en éviter le retour chez ceux qu'elle a punis. La philanthropie est une sublime erreur. Elle tourmente inutilement le corps. Elle ne produit pas le baume qui guérit l'âme. Le philanthrope fait des projets, a des idées, en confie l'exécution à l'homme, au silence, au travail, à des consignes, à des choses muettes et sans puissance. La religion ignore ses imperfections, car elle a étendu la vie au-delà de ce monde. En nous considérant tous comme déchus et dans un état de dégradation, elle a ouvert un inépuisable trésor d'indulgence. Nous sommes tous plus ou moins avancés, vers notre entière régénération. Personne n'est infaillible, l'Église s'attend aux fautes et même aux crimes. Là où la société voit un criminel à retrancher de son sein, l'Église voit une âme à sauver. Bien plus, inspirée de Dieu qu'elle étudie et contemple, l'Église admet l'inégalité des forces. Elle étudie la disproportion des fardeaux. Si elle vous trouve inégaux de cœur, de corps, d'esprit, d'aptitude, de valeur, elle vous rend tous égaux par le repentir. Là, l'égalité, madame, n'est plus un vain mot, car nous pouvons être, nous sommes, tous égaux par les sentiments. Depuis le fétichisme informe des sauvages, jusqu'aux gracieuses intentions de la Grèce, jusqu'aux profondes et ingénieuses doctrines de l'Égypte et des Indes, traduites par des cultes riants ou terribles, il est une conviction dans l'homme, celle de sa chute, de son péché. D'où vient partout l'idée des sacrifices et du rachat. La mort du Rédempteur, qui a racheté tout le genre humain, est l'image de ce que nous devons faire pour nous-mêmes. Rachetons nos fautes, rachetons nos erreurs, rachetons nos crimes, tout est rachetable. Le catholicisme est dans cette parole. De là ces adorables sacrements, qui aident au triomphe de la grâce et soutiennent le pécheur. Pleurer, madame, gémir comme la Madeleine dans le désert, n'est que le commencement. Agir est la fin. Les monastères pleuraient et agissaient, ils priaient et civilisaient. Ils ont été les moyens actifs de notre divine religion. Ils ont bâti, planté, cultivé l'Europe, tout en sauvant le trésor de nos connaissances et celui de la justice humaine, de la politique et des arts. On reconnaîtra toujours en Europe la place de ces centres radieux. La plupart des villes nouvelles sont filles d'un monastère. Si vous croyez que Dieu est à vous juger, l'Église vous dit par ma voix que tout peut se racheter par les bonnes œuvres du repentir. Les grandes mains de Dieu pèsent à la fois le mal qui fut fait et le trésor des bienfaits accomplis. Soyez à vous seul le monastère. Vous pouvez en recommencer ici les miracles. Vos prières doivent être des travaux. De votre travail doit découler le bonheur de ceux au-dessus desquels vous ont mis votre fortune, votre esprit, tout, jusqu'à cette position naturelle, image de votre situation sociale. En disant ces derniers mots, le prêtre et Madame Grasselin s'étaient retournés pour revenir sur leurs pas vers les plaines. Et le curé put montrer et le village au bas de la colline et le château dominant le paysage. Il était alors 4h30. Un rayon de soleil jaunâtre enveloppait la balustrade, les jardins, illuminait le château, faisait briller le dessin des acrotères en fonte dorée. Il éclairait la longue plaine partagée par la route. Triste ruban gris que n'avait pas ce feston, que partout ailleurs les arbres y brodent les deux côtés. Quand Véronique et M. Bonnet eurent dépassé la masse du château, ils purent voir par-dessus la cour les écuries et les communs, la forêt de Montaignac, sur laquelle cette lueur glissait comme une caresse. Quoique ce dernier éclat du soleil couchant n'atteignît que les cimes, il permettait de voir parfaitement, depuis la colline où se trouve Montaignac jusqu'au premier pic de la chaîne des monts Corréziens, les caprices de la magnifique tapisserie que fait une forêt en automne. Les chênes formaient des masses de bronze florentin. Les noyers, les châtaigniers offraient leurs tons de vert de gris. Les arbres hâtifs brillaient par leur feuillage d'or. Et toutes ces couleurs étaient nuancées par des places grises incultes. Les troncs des arbres entièrement dépouillés de feuilles montraient leurs colonnades blanchâtres. Ces couleurs rousses, fauve, grise, artistement fondue par les reflets pâles du soleil d'octobre, s'harmoniait à cette plaine infertile, à cette immense jachère, verdâtre comme une eau stagnante. Une pensée du prêtre allait commenter ce beau spectacle, muet d'ailleurs. Pas un arbre, pas un oiseau, la mort dans la plaine, le silence dans la forêt. Ça et là, quelques fumées dans les chaumières du village. Le château semblait sombre, comme sa maîtresse. Par une loi singulière, tout imite dans une maison celui qui y règne. Son esprit y plane. Madame Graslin, frappée à l'entendement par les paroles du curé, et frappée au cœur par la conviction, atteinte dans sa tendresse par le timbre angélique de cette voix, s'arrêta tout à coup. Le curé leva le bras et montra la forêt. Véronique la regarda. Ne trouvez-vous pas à ceci quelque ressemblance vague avec la vie sociale? À chacun sa destinée. Combien d'inégalités dans cette masse d'arbres! Les plus hauts perchés manquent de terre végétale et d'eau. Ils meurent les premiers. Il en est que la serpe de la femme qui fait du bois arrête dans la grâce de leur jeunesse, dit-elle avec amertume. Ne retombez plus dans ces sentiments, reprit le curé sévèrement, quoique avec indulgence. Le malheur de cette forêt est de n'avoir pas été coupée. Voyez-vous le phénomène que ces masses présentent? Véronique, pour qui les singularités de la nature forestière étaient peu sensibles, arrêta par obéissance son regard sur la forêt et le reporta doucement sur le curé. « Vous ne remarquez pas, dit-il en devinant dans ce regard l'ignorance de Véronique, des lignes où les arbres de toute espèce sont encore verts ?»« Ah, c'est vrai, s'écria-t-elle. Pourquoi ?»« Là, reprit le curé, se trouve la fortune de Montaignac et la vôtre. » Une immense fortune que j'avais signalée à M. Graslin. Vous voyez les sillons de trois vallées, dont les eaux se perdent dans le torrent du Gabou. Ce torrent sépare la forêt de Montaignac de la commune, qui, de ce côté, touche à la nôtre. À sec en septembre et octobre, en novembre, il donne beaucoup d'eau. Son eau, dont la masse serait facilement augmentée par des travaux dans la forêt, afin de rien laisser perdre et de réunir les plus petites sources. Cette eau ne sert à rien. Mais faites entre les deux collines du torrent un ou deux barrages pour la retenir, pour la conserver, comme a fait Riquet à Saint-Féréol, où l'on pratiqua d'immenses réservoirs pour alimenter le canal du Languedoc. Vous allez fertiliser cette plaine inculte avec de l'eau sagement distribuée dans des rigoles maintenues par des vannes, laquelle se boirait en temps utile dans ces terres, et dont le trop-plein serait d'ailleurs dirigé vers notre petite rivière. Vous aurez de beaux peupliers le long de tous vos canaux, et vous élèverez des bestiaux dans les plus belles prairies possibles. Qu'est-ce que l'herbe? Du soleil et de l'eau. Il y a bien assez de terre dans ces plaines pour les racines du gramen. Les eaux fourniront des rosées qui féconderont le sol. Les peupliers s'en nourriront et arrêteront les brouillards, dont les principes seront pompés par toutes les plantes. Tels sont les secrets de la belle végétation dans les vallées. Vous verrez un jour la vie, la joie, le mouvement, là où règne le silence. Là où le regard s'attriste de l'infécondité. Ne sera-ce pas une belle prière? Ces travaux n'occuperont-ils pas votre oisiveté mieux que les pensées de la mélancolie? Véronique serra la main du curé, ne dit qu'un mot, mais ce mot fut grand. Ce sera fait, monsieur. Vous concevez cette grande chose, reprit-il, mais vous ne l'exécuterez pas. Ni vous ni moi n'avons les connaissances nécessaires à l'accomplissement d'une pensée qui peut venir à tous, mais qui soulève des difficultés immenses. Car quoique simple et presque cachée, ces difficultés veulent les plus exactes ressources de la science. Cherchez donc dès aujourd'hui les instruments humains qui vous feront gagner dans 12 ans 6 ou 7 000 louis de rente, avec les 6 000 arpents que vous fertiliserez ainsi. Ce travail rendra quelque jour Montaignac l'une des plus riches communes du département. La forêt ne vous rapporte rien encore, mais tôt ou tard, la spéculation viendra chercher ces magnifiques bois, trésors amassés par le temps, les seuls dont la production ne peut être ni bâtée, ni remplacée par l'homme. L'État créera peut-être un jour lui-même des moyens de transport pour cette forêt, dont les arbres seront utiles à sa marine. Mais il attendra que la population de Montaignac décuplée exige sa protection, car l'État est comme la fortune, il ne donne qu'aux riches. Cette terre sera dans ce temps l'une des plus belles de France. Elle sera l'orgueil de votre petit-fils, qui trouvera peut-être le château mesquin, relativement aux revenus. Voilà, dit Véronique, un avenir pour ma vie. Une pareille œuvre peut racheter bien des fautes, dit le curé. En se voyant compris, il essaya de frapper un dernier coup sur l'intelligence de cette femme. Il avait deviné que chez elle, l'intelligence menait au cœur, tandis que chez les autres femmes, le cœur est au contraire le chemin de l'intelligence. « Savez-vous, lui dit-il après une pause, dans quelle erreur vous êtes ?» Elle le regarda timidement. « Votre repentir n'est encore que le sentiment d'une défaite essuyée. Ce qui est horrible, c'est le désespoir de Satan. Et tel était peut-être le repentir des hommes avant Jésus-Christ. Mais notre repentir à nous autres, catholiques, est l'effroi d'une âme qui se heurte dans la mauvaise voie et à qui, dans ce choc, Dieu est révélé. Vous ressemblez à l'Oreste païen. Devenez saint Paul. Votre parole vient de me changer entièrement, s'écria-t-elle. Maintenant, oh maintenant, je veux vivre. L'esprit a vaincu, se dit le modeste prêtre qui s'en alla joyeux. Il avait jeté une pâture au secret désespoir qui dévorait Madame Grasselin, en donnant à son repentir la forme d'une belle et bonne action. Aussi Véronique écrivit-elle à M. Grosse-Tête le lendemain même. Quelques jours après, elle reçut de Limoges 3 chevaux de sel envoyés par ce vieil ami. M. Bonnet avait offert à Véronique, sur sa demande, le fils du maître de poste, un jeune homme enchanté de se mettre au service de Madame Grasselin et de gagner 50aine d'écus. Ce jeune garçon, à la figure ronde, aux yeux et aux cheveux noirs, petit, découplé, nommé Maurice Champion, plut à Véronique, et fut aussitôt mis en fonction. Il devait accompagner sa maîtresse dans ses excursions et avoir soin des chevaux de sel. Le garde général de Montaignac était un ancien maréchal des logis de la garde royale, né à Limoges, et que monsieur le duc de Navarreins avait envoyé d'une de ses terres à Montaignac pour en étudier la valeur et lui transmettre des renseignements, afin de savoir quel parti on en pouvait tirer. Jérôme Colorat n'y vit que des terres incultes et infertiles, des bois inexploitables, à cause de la difficulté des transports, un château en ruine, et d'énormes dépenses à faire pour y rétablir une habitation et des jardins. Effrayé surtout, des clairières semées de roches granitiques qui nuançaient de loin cette immense forêt. Ce probe, mais intelligent serviteur, fut la cause de la vente de ce bien. « Colorat, dit Madame Grasselin à son garde qu'elle fit venir, « à compter de demain, je monterai vraisemblablement à cheval tous les matins. Vous devez connaître les différentes parties de terre qui dépendent de ce domaine. » Et celles que M. Grasselin y a réunies. Vous me les indiquerez. Je veux tout visiter par moi-même. Les habitants du château apprirent avec joie le changement qui s'opérait dans la conduite de Véronique. Sans en avoir reçu l'ordre, Aline chercha d'elle-même la vieille amazone noire de sa maîtresse et la mit en état de servir. Le lendemain, la sauvia vit avec un indicible plaisir sa fille habillée pour monter à cheval. Guidée par son garde et par Champion, qui allèrent en consultant leurs souvenirs, car les sentiers étaient à peine tracés dans ces montagnes inhabitées. Madame Graslin se donna pour tâche de parcourir seulement les cimes sur lesquelles s'étendaient ces bois, afin d'en connaître les versants et de se familiariser avec les ravins, chemin naturel qui déchirait cette longue arête. Elle voulait mesurer sa tâche, étudier la nature des courants et trouver les éléments de l'entreprise signalés par le curé. Elle suivait Colora qui marchait en avant, et Champion allait à quelques pas d'elle. Tant qu'elle chemina dans des parties pleines d'arbres, en montant et descendant tour à tour ces ondulations de terrain, si rapprochées dans les montagnes en France, Véronique fut préoccupée par les merveilles de la forêt. C'étaient des arbres séculaires, dont les premiers l'étonnèrent, et auxquels elle finit par s'habituer. Puis de hautes futaies naturelles, ou dans une clairière, quelques pins solitaires d'une hauteur prodigieuse. Enfin, chose plus rare, un de ces arbustes, nains partout ailleurs, mais qui, par des circonstances curieuses, atteignent des développements gigantesques, et sont quelquefois aussi vieux que le sol. Elle ne voyait pas, sans une sensation inexprimable, une nuée roulant sur des roches nues. Elle remarquait les sillons blanchâtres, faits par les ruisseaux de neige fondus, et qui, de loin, ressemblent à des cicatrices. Après une gorge sans végétation, elle admirait, dans les flancs exfoliés d'une colline rocheuse, des châtaigniers centenaires, aussi beaux que des sapins des Alpes. La rapidité de sa course lui permettait d'embrasser, presque à vol d'oiseau, tantôt de vastes sables mobiles, des fondrières meublées d'arbres épars, des granits renversés, des roches pendantes, des vallons obscurs, des places étendues, pleines de bruyères encore fleuries, et d'autres desséchées. Tantôt des solitudes âpres, où croissaient des genévriers, des capriers. Tantôt des prés à herbes courtes, des morceaux de terre engraissés par un limon séculaire. Enfin les tristesses, les splendeurs, les choses douces, fortes, les aspects singuliers de la nature montagnarde au centre de la France. Et à force de voir ces tableaux variés de formes, mais animés par la même pensée, la profonde tristesse exprimée par cette nature à la fois sauvage et minée, abandonnée, infertile, la gagna et répondit à ses sentiments cachés. Et lorsque, par une échancrure, elle aperçut les plaines à ses pieds, quand elle eut à gravir quelque aride ravine, entre les sables et les pierres de laquelle avaient poussé des arbustes rabougris, et que ce spectacle revint de moment en moment, l'esprit de cette nature austère la frappa, lui suggéra des observations neuves pour elle, et excitée par les significations de ces divers spectacles. Il n'est pas un site de forêt qui n'ait sa signification, pas une clairière, pas un fourré qui ne présente des analogies avec le labyrinthe des pensées humaines. Quelle personne, parmi les gens dont l'esprit est cultivé, ou dont le cœur a reçu des blessures, peut se promener dans une forêt sans que la forêt lui parle? Insensiblement, il s'en élève une voix ou consolante ou terrible, mais plus souvent consolante que terrible. Si l'on recherchait bien les causes de la sensation, à la fois grave, simple, douce, mystérieuse qui vous y saisit, peut-être la trouverait-on dans le spectacle sublime et ingénieux de toutes ces créatures obéissant à leur destinée et immuablement soumises. Tôt ou tard, le sentiment écrasant de la permanence de la nature vous emplit le cœur, vous remue profondément, et vous finissez par y être inquiet de Dieu. Aussi Véronique recueillit-elle, dans le silence de ses cimes, dans la senteur des bois, dans la sérénité de l'air, comme elle le dit le soir à Monsieur Bonnet, la certitude d'une clémence auguste. Elle entrevit la possibilité d'un ordre de fait plus élevé que celui dans lequel avaient jusqu'alors tourné ses rêveries. Elle sentit une sorte de bonheur. Elle n'avait pas, depuis longtemps, éprouvé tant de paix. Devait-elle ce sentiment à la similitude qu'elle trouvait entre ces paysages et les endroits épuisés et desséchés de son âme? Avait-elle vu ces troubles de la nature avec une sorte de joie, en pensant que la matière était punie, là, sans avoir péché? Certes, elle fut puissamment émue, car, à plusieurs reprises, Colora et Champion se la montrèrent, comme s'ils la trouvaient transfigurée. Dans un certain endroit, Véronique aperçut, dans les roides pentes des torrents, je ne sais quoi de sévère. Elle se surprit à désirer d'entendre l'eau bruissant dans ses ravines ardentes. « Toujours aimée, » pensa-t-elle. Honteuse de ce mot qui lui fut jeté comme par une voix, elle poussa son cheval avec témérité vers le premier pic de la Corrèze, où, malgré l'avis de ses deux guides, elle s'élança. Elle atteignit seule au sommet de ce piton, nommé la Roche Vive, et y resta pendant quelques instants, occupée à voir tout le pays. Après avoir entendu la voix secrète de tant de créations qui demandaient à vivre, elle reçut en elle-même un coup qui la détermina à déployer pour son œuvre cette persévérance tant admirée et dont elle donna tant de preuves. Elle attacha son cheval par la bride à un arbre, alla s'asseoir sur un quartier de roche, en laissant errer ses regards sur cet espace où la nature se montrait marâtre, et ressentit dans son cœur les mouvements maternels qu'elle avait jadis éprouvés en regardant son enfant. Préparée à recevoir la sublime instruction que présentait ce spectacle, par les méditations presque involontaires, qui, selon sa belle expression, avait vanné son cœur, elle s'y éveilla d'une léthargie. Elle comprit alors, dit-elle au curé, que nos âmes devaient être labourées aussi bien que la terre. Cette vaste scène était éclairée par le pâle soleil du mois de novembre. Déjà, quelques nuées grises chassées par un vent froid venaient de l'ouest. Il était environ 3 heures. Véronique avait mis 4 heures à venir là. Mais comme tous ceux qui sont dévorés par une profonde misère intime, elle ne faisait aucune attention aux circonstances extérieures. En ce moment, sa vie véritablement s'agrandissait du mouvement sublime de la nature. Ne restez pas plus longtemps là, madame, lui dit un homme dont la voix la fit tressaillir. Vous ne pourriez plus retourner nulle part, car vous êtes séparée par plus de 2 lieues de toute habitation. À la nuit, la forêt est impraticable, mais ces dangers ne sont rien en comparaison de celui qui vous attend ici. Dans quelques instants, il fera sur ce pic un froid mortel, dont la cause est inconnue, et qui a déjà tué plusieurs personnes. Madame Grasselin aperçut au-dessous d'elle une figure presque noire de hâle, où brillaient 2 yeux, qui ressemblaient à 2 langues de feu. De chaque côté de cette face pendait une large nappe de cheveux bruns, et dessous s'agitait une barbe en éventail. L'homme soulevait respectueusement un de ces énormes chapeaux à large bord que portent les paysans au centre de la France, et montrait un de ces fronts dégarnis, mais superbes, par lesquels certains pauvres se recommandent à l'attention publique. Véronique n'eut pas la moindre frayeur. Elle était dans une de ces situations où, pour les femmes, cessent toutes les petites considérations qui les rendent peureuses. « Comment vous trouvez-vous là ? » lui dit-elle. Mon habitation est à peu de distance, répondit l'inconnu. Et que faites-vous dans ce désert ? Demanda Véronique. J'y vis. Mais comment et de quoi ? On me donne une petite somme pour garder toute cette partie de la forêt, dit-il en montrant le versant du pic opposé à celui qui regardait les plaines de Montaignac. Madame Grasselin aperçut alors le canon d'un fusil et vit un carnier. Si elle avait eu des craintes, elle eût été dès lors rassurée. « Vous êtes garde ?»« Non, madame. Pour être garde, il faut pouvoir prêter serment. Et pour le prêter, il faut jouir de tous ses droits civiques. Qui donc êtes-vous ? Je suis Farabèche, dit l'homme avec une profonde humilité, en abaissant les yeux vers la terre. Madame Grasselin, à qui ce nom ne disait rien, regarda cet homme et observa dans sa figure, excessivement douce, des signes de férocité cachés. Les dents, mal rangées, imprimaient à la bouche, dont les lèvres étaient d'un rouge de sang, un tour plein d'ironie et de mauvaise audace. Les pommettes brunes et saillantes offraient je ne sais quoi d'animal. Cet homme avait la taille moyenne, les épaules fortes, le cou rentré, très court, gros, les mains larges et velues des gens violents, et capables d'abuser de ses avantages d'une nature bestiale. Ces dernières paroles annonçaient d'ailleurs quelques mystères, auxquels son attitude, sa physionomie et sa personne prêtaient un sens terrible. « Vous êtes donc à mon service ?» lui dit d'une voix douce Véronique. « J'ai donc l'honneur de parler à Madame Grasselin ?» dit Farabèche. « Oui, mon ami, » répondit-elle. Farabèche disparut avec la rapidité d'une bête fauve, après avoir jeté sur sa maîtresse un regard plein de crainte. Véronique s'empressa de remonter à cheval et alla rejoindre ses deux domestiques qui commençaient à concevoir des inquiétudes sur elle, car on connaissait dans le pays l'inexplicable insalubrité de la roche vive. Colora pria sa maîtresse de descendre par une petite vallée qui conduisait dans la plaine. « Il serait, dit-il, dangereux de revenir par les hauteurs, où les chemins déjà si peu frayés se croisaient, et où, malgré sa connaissance du pays, il pourrait se perdre. » Une fois en plaine, Véronique ralentit le pas de son cheval. « Quel est ce Farabèche que vous employez ? Dit-elle à son garde général. « Madame l'a rencontré ? S'écria Colora. « Oui, mais il s'est enfui. Le pauvre homme, peut-être ne sait-il pas combien Madame est bonne. Enfin, qu'a-t-il fait ? Mais, Madame, Farabèche est un assassin, répondit naïvement Champion. On lui a donc fait grâce, à lui ? Demanda Véronique d'une voix émue. Non, Madame, répondit Colora. Farabèche a passé aux assises. Il a été condamné à 10 ans de travaux forcés. Il a fait son temps. Et il est revenu du bagne en 1827. Il doit la vie à monsieur le curé, qui l'a décidé à se livrer. Condamné à mort par contumace, tôt ou tard il eût été pris, et son cas n'eût pas été bon. Monsieur Bonnet est allé le trouver tout seul, au risque de se faire tuer. On ne sait pas ce qu'il a dit à Farabèche. Ils sont restés seuls pendant 2 jours. Le troisième, il l'a ramené à Tulle, où l'autre s'est livré. Monsieur Bonnet est allé voir un bon avocat, lui a recommandé la cause de Farabèche. Farabèche en a été quitte pour 10 ans de fer, et monsieur le curé l'a visité dans sa prison. Ce gars-là, qui était la terreur du pays, est devenu doux comme une jeune fille. Il s'est laissé emmener au bagne tranquillement. À son retour, il est venu s'établir ici, sous la protection de monsieur le curé. Personne ne lui dit plus haut que son nom. Il va tous les dimanches et les jours de fête aux offices, à la messe. Quoiqu'il ait sa place parmi nous, il se tient le long d'un mur, tout seul. Il fait ses dévotions de temps en temps. Mais à la sainte table, il se met aussi à l'écart. Et cet homme a tué un autre homme ? Hein ? Dit Colora. Il en a bien tué plusieurs. Mais c'est un bon homme tout de même. Est-ce possible ? S'écria Véronique, qui, dans sa stupeur, laissa tomber la bride sur le cou de son cheval. Voyez-vous, madame, reprit le garde, qui ne demandait pas mieux que de raconter cette histoire, Farabèche a peut-être eu raison dans le principe. Il était le dernier des Farabèche. Une vieille famille de Corrèze, quoi. Son frère aîné, le capitaine Farabèche, est donc mort 10 ans auparavant, en Italie. À Montenotte, capitaine à 22 ans. Était-ce avoir du guignon? Et un homme qui avait des moyens. Il savait lire et écrire. Il se promettait d'être fait général. Il y eut des regrets dans la famille. Et il y avait de quoi, vraiment. Moi, qui dans ce temps était avec l'autre, j'ai entendu parler de sa mort. Oh, le capitaine Farabèche a fait une belle mort. Il a sauvé l'armée et le petit caporal. Je servais déjà sous le général Steingel, un Allemand, c'est-à-dire un Alsacien. Un fameux général. Mais il avait la vue courte. Et ce défaut-là fut cause de sa mort, arrivée quelque temps après celle du capitaine Farabèche. Le petit dernier, qui est celui-ci, avait donc 6 ans, quand il entendit parler de la mort de son grand frère. Le second frère servait aussi, mais comme soldat. Il mourut sergent. Premier régiment de la garde, un beau poste, à la bataille d'Austerlitz, où, voyez-vous, madame, on a manœuvré aussi tranquillement que dans les Tuileries. J'y étais aussi. Oh, j'ai eu du bonheur. J'ai été de tout, sans attraper une blessure. Notre Farabèche, donc, quoiqu'il soit brave, se mit dans la tête de ne pas partir. Au fait, l'armée n'était pas saine pour cette famille-là. Quand le sous-préfet l'a demandé en 1811, il s'est enfui dans les bois, réfractaire quoi, comme on les appelait. Pour lors, il s'est joint à un parti de chauffeurs, de gré ou de force. Mais enfin, il a chauffé. Vous comprenez que personne, autre que monsieur le curé, ne sait ce qu'il fait avec ces matins-là, parlant par respect. Il s'est souvent battu avec les gendarmes, et avec la ligne aussi. Enfin, il s'est trouvé dans 7 rencontres. Il passe pour avoir tué 2 soldats et 3 gendarmes, dit Champion. Est-ce qu'on sait le compte ? Il ne l'a pas dit, reprit Colora. Enfin, madame, presque tous les autres ont été pris. Mais lui, dame, jeune et habile, connaissant mieux le pays, il a toujours échappé. Ces chauffeurs-là se tenaient aux environs de Brive et de Tulle. Ils rabattaient souvent par ici, à cause de la facilité que Farabèche avait de les cacher. En 1814, on ne s'est plus occupé de lui. La conscription était abolie. Mais il a été forcé de passer l'année 1815 dans les bois. Comme il n'avait pas ses aises pour vivre, il a encore aidé à arrêter la malle, dans la gorge, là-bas. Mais enfin, d'après l'avis de monsieur le curé, il s'est livré. Il n'a pas été facile de lui trouver des témoins. Personne n'osait déposer contre lui. Pour lors, son avocat et monsieur le curé ont tant fait qu'il en a été quitte pour 10 ans. Il a eu du bonheur après avoir chauffé, car il a chauffé. Mais qu'est-ce que c'était que de chauffer ? Si vous le voulez, madame, je vais vous dire comment il faisait, autant que je le sais par les uns et les autres. Car vous comprenez, je n'ai point chauffé. Ça n'est pas beau. Mais la nécessité ne connaît point de loi. Donc, il tombait 7 ou 8, chez un fermier, ou chez un propriétaire, soupçonné d'avoir de l'argent. Il vous allumait du feu, soupait au milieu de la nuit, puis, entre la poire et le fromage, si le maître de la maison ne voulait pas leur donner la somme demandée, il lui attachait les pieds à la crémaillère et ne les détachait qu'après avoir reçu leur argent. Voilà, ils venaient masqués. Dans le nombre de leurs expéditions, il y en a eu de malheureuses. Dame, il y a toujours des obstinés, des gens avares. Un fermier, le père Cochegru, qui aurait bien tondu sur un œuf, s'est laissé brûler les pieds. Ah ben, il est mort. La femme de Monsieur David, auprès de Brive, est morte des suites de la frayeur que ces gens-là lui ont faite, rien que d'avoir vu lier les pieds de son mari. Donne-leur donc ce que tu as, qu'elle s'en allait lui disant. Il ne voulait pas, elle leur a montré la cachette. Les chauffeurs ont été la terreur du pays pendant 5 ans. Mais mettez-vous bien dans la boule, pardon madame, que plus d'un fils de bonne maison était des leurs, et que c'est pas cela qui se laissait gober.